On va lire un premier texte dans le livre des Éphésiens. La dernière fois, on avait vu ce que l'Esprit fait, comment il agit au travers de la lettre aux Éphésiens. Et c'est intéressant de voir comment Paul va conclure cette lettre, les paroles qu'il va employer. Éphésiens chapitre 6, verset 24. Et regardez bien les mots qu'il emploie. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Un amour que le temps ne peut pas corrompre. Un amour que le temps ne peut pas altérer. Donc, on dirait incorruptible aussi, ou immortel. Et je pèse les mots. Mais c'est exactement le sens qui est donné. Très intéressant parce que on va lire maintenant ce que le Saint-Esprit dit à l'église d'Éphèse dans la deuxième lettre à Éphèse. Vous allez me dire, ça n'existe pas. Si, ça existe. C'est pas de Éphèse, mais c'est Apocalypse 2. C'est une lettre à Éphèse qui est donc donnée et il est bien précisé par le Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 2, verset 1er. Le Saint-Esprit parle à l'église d'Éphèse et le Saint-Esprit, bien sûr, nous parle en tant qu'Église ce matin. C'est pas parce qu'on s'appelle pas Éphèse que le Saint-Esprit ne nous parle pas. On sait que son esprit va au-delà même des lieux géographiques. Apocalypse 2, verset 1er, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Entendons-nous ce que l'Esprit dit aux Églises? J'espère que c'est le cas ce matin. J'espère que ça va être le cas de plus en plus. Mais vraiment, j'ai été poussé à continuer cette réflexion sur le travail du Saint-Esprit, mais ce que le Saint-Esprit dit à l'église d'Éphèse. Et on sait, quand on lit cette lettre très très courte hein, d'ailleurs, mais qu'il y a un élément qui est crucial et que je mets en parallèle avec ce premier verset. Regardez comment Paul conclut que vous puissiez aimer le Seigneur d'un amour inaltérable. Et qu'est-ce que le Seigneur va reprocher à l'église d'Éphèse quelques dizaines d'années après? Tu as perdu ton premier amour. C'est intéressant quand même. Comment c'est bien fait? Est-ce que l'apôtre Paul, quand il a écrit cette lettre, il a été conduit par le Saint-Esprit? Ben, on le croit pertinemment, hein? C'est un élément de plus. Parce qu'il a dit, attention, soyez toujours avec cet amour brûlant pour le Seigneur, qui ne faillit pas justement. Et malheureusement, les temps sont passés, et c'est le problème qui est souligné, c'est le problème central. On voit d'ailleurs, on voit un Seigneur qui connaît. Et ça, déjà, moi, ça me plaît. Dans toutes les sept églises dans l'Apocalypse, il est question d'un Seigneur qui sait et qui connaît. Le Seigneur sait et connaît mieux que nous-mêmes nos propres vies. Mais est-ce que nous acceptons qu'il nous dise ce qu'il sait? Parce que parfois, on sait qu'il sait, mais on ne veut pas savoir ce qu'il sait. Parce qu'on sait que ça va pas forcément aller dans notre sens. Il connaît tout, il est omnipotent, il est omniscient. Il sait tout de nous. Mais est-ce que nous acceptons d'avoir son avis? Est-ce que nous acceptons d'entendre ce que le Saint-Esprit veut dire aux églises. Oui, l'Esprit parle à l'église d'Éphèse, l'Esprit parle à Smyrne, à Philadelphie, etc. Mais l'Esprit parle à notre église ce matin. Nous le croyons. Et le Seigneur se sert de sa parole. Ce que j'ai contre toi, C'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, le but de ma prédication n'est pas de dire il n'y a pas d'amour dans l'église, comme des fois on entend ces belles paroles des gens qui disent oh, il n'y a pas d'amour dans l'église, ça sert à rien. Non, on veut être de ceux qui amènent l'amour que le Seigneur dépose dans notre cœur. Ce que l'on voit au travers de ce verset, c'est que le Seigneur ne désire rien de moins qu'une église avec un amour brûlant pour lui. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça qu'il désire, le Seigneur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est de réaliser que le mot Éphèse vient d'un mot grec qui signifie désir, élan. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse en lui disant reviens dans ton premier amour, parce que tu as été créé pour ça. Savez-vous que nous avons été créés pour aimer Dieu? Nous avons été créés pour avoir un amour brûlant pour le Seigneur. La foi, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle de Dieu, mais c'est un amour brûlant, continuel et de tous les instants pour notre Seigneur. Abandonner son premier amour. Littéralement, c'est laisser échapper. Vous savez, comme quand on prend un petit bateau, une petite barque, et qu'on oublie de l'attacher au ponton, et puis on se retourne au bout de quelques minutes, on a laissé aller la barque, on a laissé échapper la barque, elle est au large, parce que le courant l'a emportée. Mais c'est exactement cette pensée-là. On se retourne quelques instants, on n'a pas fait attention, mais le courant a porté loin notre premier amour. Mais quand le Seigneur parle, il n'est pas sans espoir, c'est le Dieu de l'espérance. Et ce matin, il nous dit, mais si ta barque, elle est loin là-bas, il y a un moyen de la ramener au bord. On va le détailler. Mais alors que je préparais ces moments, je pensais à ce verset. Alors, on n'a pas l'habitude de lire dans le Cantique des Cantiques. Je repensais à ce verset du Cantique des Cantiques qui dit, je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Je crois que c'est vraiment un verset qu'on pourrait appliquer à Éphèse. À l'Éphèse qui s'est repentie d'ailleurs. Parce que l'Éphèse qui ne s'est pas repentie, elle est dans le problème, hein. Elle est dans la chute, elle est dans le péché. Mais Éphèse qui s'est repentie, c'est cette église qui a dit, je suis à mon bien-aimé. Je me donne entièrement à mon bien-aimé. Et je sais que ses désirs se portent vers moi. Est-ce que vous pensez que le Seigneur nous aime? Lui, d'un amour inaltérable. Ben là, il n'y a aucun doute à avoir, hein. S'il y avait le moindre doute, lisons la parole de Dieu. Mais je crois que rien que le premier verset qu'on a lu nous en convainc. Dieu ne va pas nous demander de faire quelque chose que lui-même ne fait pas. Dieu a tant, c'est le plus grand verset qu'on connaît tous par cœur, Dieu a tant ou a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ne doutons pas de l'amour de Dieu. Mais réfléchissons, est-ce que nous sommes entièrement notre bien-aimé? Comment est notre amour pour le Seigneur ce matin? Comment retrouver le premier amour s'il n'était plus là? Et quel est ce premier amour dont le Seigneur Jésus parle? Je voudrais qu'on voit ensemble que c'est un amour qui ne soutient pas le mal. C'est un amour qui éprouve les enseignements. C'est un amour qui aime ce que Dieu aime. C'est un amour qui se repent profondément. Dans toutes les lettres aux églises, de manière générale, on trouve des conseils, des avis, même des principes spirituels tellement importants pour notre foi. C'est pour ça qu'il ne faut pas le lire. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs lectures sur le livre de l'Apocalypse et sur les lettres. Il ne faut pas le lire seulement en disant, bon, c'était pour l'église d'Éphèse, ça les concerne, c'est des problèmes qui ne nous concernent pas nous. On sait que ça concerne l'église de manière générale. On sait que ça concerne des périodes de l'église. Ça parle de cette église qui a succédé à l'église primitive et qui a abandonné son premier amour, justement. Et Laodicée nous parle de l'église de la fin des temps. Tout ça, ce sont des choses qu'on sait. Mais on sait que le Saint-Esprit parle par sa parole de manière toute simple. Je sais, au verset 2, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Le premier amour, c'est un amour qui ne supporte pas le mal. Supporter, c'est-à-dire soutenir, donner de l'aide à ceux qui font le mal. C'est ça le mot. C'est pas supporter, ah, je supporte ceux qui font le mal. Il y a plein de gens qui font le mal, il faut bien le supporter. Non, non, c'est pas ça. C'est que j'aide, je contribue, si vous voulez. C'est l'image, et dans la loi, on a un terme qui le qualifie, complicité d'un crime. C'est l'image de la personne qui est dans sa voiture bien tranquillement, avec le moteur allumé, qui est garée devant la banque, et qui est en train d'attendre ceux qui sont dans la banque en train de faire le mauvais coup. Et vous allez dire, ah oui, mais moi, j'ai pas sorti de fusil, j'ai pas volé quoi que ce soit. Oui, mais vous allez conduire ceux qui ont fait tout ça. Donc, la loi pénale en France, ça s'appelle complicité d'un crime, par aide ou assistance, etc. Et c'est exactement la pensée qui est là. C'est pas, ah, j'ai rien fait de mal, mais est-ce que j'ai contribué, aidé, assisté quelqu'un qui a fait du mal? L'église d'Éphèse ne supportait pas les méchants dans ce sens-là. Alors, par contre, le problème qui s'est passé, c'est qu'ils ne supportaient pas les méchants, oui, mais ils n'avaient plus l'amour. Vous savez ce qui se passe quand on ne supporte plus les méchants et qu'on n'a pas l'amour? Ben, on devient légaliste, on devient cassant, on devient dur. Ils étaient capables de rejeter le mal, mais le faire brutalement. Ils étaient capables de reprendre les pécheurs, mais de le faire sans douceur. Et on sait que c'est pas ça qu'il faut. C'est pour ça que Jésus dit, reviens à ton premier amour. Le Seigneur doit nous donner cet amour, où on ne supporte pas le mal, mais on reste dans la douceur, dans la paix. D'ailleurs, est-ce que Jésus s'y prend autrement dans cette lettre? Dans les sept lettres, d'ailleurs, regardez comment il s'y prend. Et souvent, quand ça m'arrivait de donner quelques formations à d'autres jeunes pasteurs, et de leur expliquer, mais regarde la pédagogie de Jésus quand il reprend quelqu'un. Jésus ne tombe jamais, il ne fait pas du rugby, hein, il ne tombe pas sur les personnes, il ne fait pas un plaquage au sol. En disant, voilà, c'est comme ça, coup de Bible, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais regardez le soin, la délicatesse qu'il prend. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais ceci, je sais cela, voilà ce qui est positif dans ta vie, voilà ce qui est bien. Et au milieu de tout ça, après avoir parlé des choses positives, il va quand même dire ce qui ne va pas. Il va quand même dire la vérité. Est-ce que vous pensez que c'est pas ça justement? Ne pas supporter le mal, mais le faire avec amour. Mais oui. Il emploie beaucoup d'amour pour dénoncer leur manque d'amour, en fait. Un amour qui supporte aussi le bien sans se lasser. Vous avez vu dans ce passage ce qu'on a lu? Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es point lassé. Un amour qui ne soutient pas le mal et qui soutient le bien jusque à l'extrême, c'est ça un amour, un premier amour, un amour que le Seigneur recherche. Dans la suite du verset 2, il est dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Le premier amour, c'est un amour aussi qui discerne le vrai du faux. Nous avons besoin d'avoir ce discernement, d'avoir cette expérience. Et nous savons que ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on devient quelqu'un qui a grand discernement. Mais il est question d'éprouver les apôtres. Vous savez ce que ça veut dire l'apôtre? Ça veut dire simplement celui qui a été envoyé au loin ou envoyé en mission. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui disaient, voilà, moi j'ai été envoyé par le Seigneur. Et voilà ce que le Seigneur dit, blablabla. Mais Jésus souligne, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont. Ben oui, parce qu'on peut dire beaucoup de choses avec des mots, mais si ça reste que des mots, eh ben c'est pas la vérité. Et c'est exactement ce que ces personnes avaient l'habitude d'expérimenter. Vous savez qu'un des dons spirituels, souvent quand on n'y pense pas et qu'on ne mesure pas l'importance, parce qu'on cherche les signes, les miracles, les prodiges, mais un des plus importants à mon sens, c'est le discernement des esprits. Parce que des signes, des miracles, des prodiges, même l'ennemi, il en fait. J'espère que je ne vous surprends pas ce matin. Et dans notre pays de France, aujourd'hui, je peux vous dire que l'ennemi fait des signes, des miracles, des prodiges par toutes sortes de moyens occultes. Et que beaucoup de gens y croient. Et on a l'impression qu'on est dans un pays très moderne. Mais quand on considère un peu tout ça, on est prêt à avoir mettre notre foi dans des radiesthésistes, dans des médiums et dans des voyants. Mais surtout pas en Dieu, parce que Dieu, lui, il nous reprend. Alors que les autres, ils nous prennent l'argent, oui, mais ils nous aident. Mais le discernement des esprits, c'est tellement important. Tu as éprouvé les apôtres, ceux qui se disent, mais qui ne le sont pas et qui sont menteurs. Vous savez pourquoi c'est important d'avoir ce discernement? C'est un principe spirituel, mais c'est pas au hasard que le Seigneur Jésus en parle à la première église à Éphèse dans l'Apocalypse. Mais parce que si on lit l'Apocalypse, je vous fais grâce ce matin de ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais à un moment donné, il y aura un faux Messie, il y aura un faux prophète, il y aura des faux signes, des signes mensongers. Et si nous n'aiguisons pas notre discernement, ben déjà nous allons être piégés de notre manque d'amour, peut-être d'aujourd'hui, et louper le rendez-vous de l'enlèvement, et donc nous serons amenés à connaître ces personnes en direct. Et je peux vous dire que ça ne sera pas quelque chose de plaisant que de voir le faux prophète et le faux Messie, l'Antichrist. Voilà pourquoi c'est important d'avoir du discernement. Voilà pourquoi c'est important de savoir ce qui est bon et ce qui est moins bon. L'importance aussi de reconnaître les vrais serviteurs de Dieu. Parce que parfois on lit vite, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Vous savez que c'est encore une fois un des termes, comme apôtre, comme baptême, comme beaucoup de termes religieux qu'on a sacralisés alors qu'ils ne sont pas sacrés en fait. Pour nous, quand on lit le mot ange, on pense tout de suite à quelqu'un en blanc avec une auréole et des ailes. Mais ça n'a rien à voir dans le contexte, rien à voir du tout. Parce que l'ange, c'est le messager, celui qui apporte un message. Évangile, c'est le bon message, la bonne nouvelle. Et écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, ça veut dire, voilà le message que Dieu confie au responsable spirituel de l'église d'Éphèse. Mais regardez comment le Seigneur se présente dans cette lettre. Voilà ce que dit celui qui tient dans sa main les sept étoiles. Si vous lisez juste avant, les sept étoiles sont les sept anges. Ça veut dire quoi? D'un côté, il y a le fait de discerner sur ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, mais aussi de faire attention qu'il y a des responsables spirituels qui doivent être dans la main du Seigneur. Parce qu'à l'époque d'Éphèse, dans ce moment-là, les faux apôtres venaient remettre en question l'autorité de ces responsables spirituels. On sait que ce n'était pas forcément des pasteurs. Il y a eu Timothée qui a été pasteur pendant quelque temps de l'église d'Éphèse, mais il pouvait y avoir aussi des anciens, puisque Paul les a appelés les anciens de l'église d'Éphèse pour leur dire au revoir. Certains remettaient en question tout cela en disant « Voilà, moi le Seigneur m'a parlé, je suis envoyé de Dieu. » Non, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et tu les as trouvés menteurs. Et sous-entendu, tu as gardé ta confiance dans l'ange, le responsable de l'église d'Éphèse. Est-ce que vous souhaitez que votre pasteur soit dans la main du Seigneur pour que l'église soit bénie? Je crois que c'est ce que l'on veut, moi le premier, hein. Mais on a besoin de prier. Priez pour vos conducteurs. Priez. Est-ce que vous voulez que le Seigneur marche au milieu des chandeliers d'or, comme c'est dit? Le chandelier, c'est quoi? C'est l'église. C'est l'église qui rend témoignage. Et nous voulons que le Seigneur vienne par sa présence. Mais pour que cela se fasse, il faut qu'on ait ce discernement qui plaît au Seigneur et qui nous permet qu'ensemble, main dans la main, nous puissions servir notre Dieu. On va faire un petit saut jusqu'au verset 6. Pardon. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Le premier amour, c'est un amour qui aime ce que Dieu aime et qui est ce que Dieu est. Vous savez que nous sommes dans un temps comparable à ce que Isaïe a pu dire pour Israël. Ils appellent le mal bien et le bien mal. Vous êtes d'accord? Je pense que ça résume bien notre époque. Et Isaïe prophétise et dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Mais quand on veut avoir un amour brûlant pour le Seigneur, on veut réaliser ce que Dieu aime et comprendre, aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu est. Je ne vais pas rentrer dans la réflexion, qu'est-ce que c'est la doctrine des Nicolaïtes, c'est pas le but, il y aura peut-être l'occasion de le voir une autre fois, mais je voudrais juste rentrer sur ce principe que nous avons besoin d'aimer ce que Dieu aime. En fait, c'est une bonne définition de la foi encore. Aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu est. Amos 5,14 nous dit, je le lis pour vous, « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. » J'aime ces versets qui sont tellement simples. Mais qui sont là aussi pour nous remettre en question. Oui, le Seigneur est avec nous, le Seigneur est avec nous, le Seigneur est avec nous. Ok, mais il y a un moyen de le savoir. Est-ce que tu haïs le mal et est-ce que tu aimes le bien? Parce que si c'est le cas, oui, le Seigneur est vraiment avec toi. Amen. C'est la même chose quand il est dit dans Matthieu 28. Vous savez, le dernier verset, la grande mission. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. On ne peut pas dire, le Seigneur est avec moi, mais je prends ce que j'ai envie dans la Bible, j'aime ce que j'ai envie, j'aime un peu du monde, j'aime un peu de Dieu, et après s'attendre à ce que notre foi et notre amour pour le Seigneur soient brûlants, ça ne va pas marcher. Mais si je prends soin de lire la parole, de laisser la parole pénétrer mon âme, et que Dieu m'instruise dans ce qu'il aime et dans ce qu'il n'aime pas, et de la pratiquer, mon amour va brûler pour le Seigneur. Le dire, ce n'est pas suffisant, mais le vivre, c'est ça que nous devons faire. Vous savez, c'est ça, de toute façon, d'un point de vue général, au niveau de l'amour, le dire, c'est pas suffisant. Vous pouvez dire à votre conjoint « je t'aime, je t'aime, je t'aime » et puis avoir les bras croisés toute la journée. À un moment donné, ça va pas fonctionner. Vous êtes d'accord? Il y en a qui ont plus d'expérience que moi. Mais c'est une réalité, parce que l'amour, ça se prouve. Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort. Dieu nous a prouvé. Il a un amour infini, il nous le dit, mais il a prouvé de manière magistrale. Personne n'arrive à la cheville de comment Dieu il a prouvé son amour envers les hommes. Et combien nous avons besoin de demander au Seigneur son aide. Mais avoir dans notre cœur cet amour pour la parole de Dieu. Parce que comment savoir ce qui est bien et ce qui est mal sans la parole de Dieu? C'est impossible. Mais quand on dévore cette parole, quand on la fait nôtre, quand on la médite, le Seigneur allume le feu dans notre cœur. Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Regardez maintenant le verset 5, Apocalypse 2, verset 5, cette phrase qui est vraiment la clé. Tout ce qu'on a partagé, c'est bien, mais ça, c'est l'apogée de l'enseignement de Jésus à l'église d'Éphèse. Et pourtant, parfois, on s'attend à des grands principes théologiques très profonds, mais regardez en fait, c'est très simple. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Le premier amour, c'est un amour qui se repent profondément. Souvent, on a l'idée de l'amour pour le Seigneur, pour déplacer les montagnes, on est prêt à faire plein de choses. Et le Seigneur nous arrête, nous dit, oui, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi. Et après, bien sûr, tu vas le faire. Après, tu vas être employé de manière puissante. Mais d'abord, il y a cette étape-là dans laquelle on ne peut pas s'esquiver. On va lire un texte qui, pour moi, est une illustration merveilleuse de l'amour que le Seigneur attend de nous, dans Luc chapitre 7. On va prendre le temps de le lire. Vous êtes d'accord? C'est la parole de Dieu. On vient de dire qu'il faut aimer la parole de Dieu. Si on ne prend pas le temps de la lire, ça serait dommage. Luc chapitre 7, verset 36. Cette histoire de ce pharisien qui a invité Jésus à manger. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle mouilla de ses larmes ses pieds, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche? Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux la dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Littéralement, tes péchés ont déjà été pardonnés. Et c'est très intéressant de s'arrêter sur ce texte pour réfléchir, parce que parfois on peut mal comprendre, on peut se dire, ah, tellement elle a montré son amour au Seigneur qu'il l'a pardonné. Mais c'est pas du tout ça l'enseignement. Ça, c'est presque l'opposé même. C'est pas par les œuvres qu'on est pardonné. Et Jésus le dit bien, celui à qui on pardonne peu, aime peu. La première chose, c'est qu'elle a été pardonnée de son péché et elle a voulu montrer cet amour qu'elle a reçu dans son cœur à cause de sa repentance par tout ce qui a suivi. Parce que sa dette qui était énorme a été réglée dans son cœur. Soit dit en passant, regardez l'attitude de ce pharisien. On parlait d'éprouver, d'avoir du discernement. Il voit Jésus se comporter et il dit, oh là là, celui-là, si vraiment c'était un prophète, il saurait. Est-ce que vous pensez que Jésus savait? Il savait très bien. Mais il savait bien mieux que ce pharisien. Il savait que cette femme s'était repentie. Et que parce qu'elle s'était repentie, il y avait un amour brûlant dans son cœur. Et c'est très intéressant de voir tout ce qu'elle a fait. C'est pas le but de ce matin, mais le but c'est de dire, quand on passe par l'étape de la repentance profonde, moi c'est un texte qui m'a bouleversé, parce que né dans une famille chrétienne avec un père pasteur, je pouvais me dire quand même, j'ai fait moins de choses graves que des gens qui sont des malfrats depuis leur enfance. Mais c'est un texte qui m'a montré que c'est pas une question de notre contexte de vie, c'est une question de cœur. Quand je me suis approché du Seigneur, que je me suis repenti et que j'ai appris le chemin de la repentance, parce que c'est pas quelque chose d'une fois, c'est de tous les jours, je savais que mon amour pour le Seigneur allait grandir de plus en plus. Et c'est exactement le message que Jésus est en train de dire à l'église d'Éphèse. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Par la repentance, ton amour va pouvoir brûler à nouveau. Quelqu'un, laissez-moi vous le dire, quelqu'un qui a pris l'habitude de se repentir régulièrement, attention, pour des choses qui en valent la peine, pas le faire de manière mécanique parce qu'on nous a dit qu'il faut le faire. Non, non, parce qu'il y a des choses dans nos vies, on sait tout ce qui se passe, mais qui prend cette habitude. Je veux rien laisser dans mon cœur qui vienne s'interposer entre Dieu et moi, qui vienne altérer ma relation avec le Seigneur. Quelqu'un qui a pris cette habitude, son amour est obligé de grandir. Cette semaine, je vous avais parlé une fois d'une lettre particulière, mais cette semaine j'ai eu un bon coup de fil. J'ai eu un coup de fil qui m'a réjoui. Bon, ils sont souvent bons, hein. Mais là, vraiment, j'étais content. C'était une personne que je connais depuis quelques années et qui m'a dit tout simplement, voilà, ce matin alors que je priais, le Seigneur m'a fait remonter à la mémoire une telle situation qui s'est passée il y a 5 ou 6 ans, j'ai mal agi envers toi et je veux te demander pardon. Ça fait plaisir. Alors, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, ça fait longtemps que tu es pardonné, j'ai aucune rancune, il n'y a rien du tout. Mais je t'encourage parce que ce que tu es en train de faire, ça me prouve que le Saint-Esprit est en train d'agir dans ton cœur. Parce que ça, c'est l'Esprit qui parle à l'église d'Éphèse. Souviens-toi d'où tu es tombé, et repens-toi. Mais il est exactement dans cette réalité-là. Mais ce qui m'a interpellé, c'est ce qu'il m'a dit après, on partageait tout simplement, il m'a dit, voilà, je suis en train de faire ça pour... J'ai appelé plusieurs personnes, et il y en a une, entre autres, qui a dit, oh, mais ça sert à rien de remuer le passé, c'est vieux ça, ça sert à rien. Tu vas voir, ça va s'arranger tout seul. Et je lui ai dit, mais ça, c'est pas spirituel. Parce que l'Esprit, il dit quoi? Souviens-toi et repens-toi. Si le Seigneur vous met à cœur quelque chose qui est vieux et que vous devez demander pardon, faites-le. Ne dites pas, c'est pas, ah, ça fait longtemps, c'est oublié. Non, non, non. Moi, il y a une phrase que je ne supporte plus, je vous le dis. Oh, de l'eau a coulé sous les ponts. Ah, comme si le péché était parti parce que de l'eau a coulé sous les ponts. Je ne la supporte pas dans ce contexte-là de la repentance, d'accord, hein? Maintenant, je comprends ce que ça veut dire, mais... Mais c'est pas parce que de l'eau a coulé sous les pans que le Seigneur a effacé la faute. La seule chose qui efface la faute du cœur, on le sait, c'est le sang de Jésus. C'est par la repentance. Quand je viens à la croix, Seigneur, je me souviens, oui, je suis tombé à telle ou telle occasion, mais je me repens. Et la barque qui était au large, le Seigneur en un instant, il la ramène au bord et notre amour est brûlant pour notre Seigneur. Une dernière pensée, mais c'est la suite du verset 5. « Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Nous l'avons dit, Jésus marche au milieu des chandeliers. Jésus marche au milieu des églises. En tout cas, c'est ce que nous désirons, que le Seigneur soit présent dans son Église, que l'Église soit ce flambeau qui illumine la ville où elle est placée. Mais si une Église refuse de se repentir, il ôtera son chandelier et il le mettra à une autre Église. C'est quand même fort ce qui est dit. Et je ne pense pas que ce soit un programme qui nous intéresse. Est-ce que nous voulons que le chandelier nous soit ôté? Ou est-ce que nous voulons au contraire que la flamme brûle de plus en plus et de mieux en mieux? Bien sûr, nous avons besoin de progresser, de grandir, mais nous savons ce qui se passe quand le Seigneur agit dans notre cœur, quand on le laisse agir. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Une promesse pour celui qui va vaincre d'être dans le paradis de Dieu. Vous savez, il y a un homme sur la terre qui a reçu une promesse quasiment pareille. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pourtant, c'était pas un grand, comment dire, un grand pasteur, quelqu'un qui avait fait beaucoup de prédications, qui avait une vie qui a honoré le Seigneur. C'était un brigand sur une croix, qui était jamais allé à l'église, qui a jamais loué le Seigneur à haute voix, qui s'est pas fait baptiser, qui a jamais donné la dîme, qui a peut-être même empêché des gens d'aller à l'église. Et pourtant, c'est lui qui a reçu la parole « Tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis ». Vous savez, des fois, on me dit « Ah, mais est-ce que vraiment on peut être sûr qu'on est sauvé ?» Ben, là, il y a un exemple. Hein. Cet homme, il a eu la certitude. Jésus lui a dit « Tu es sauvé, tu seras dans le paradis ». Il lui a dit avant de mourir. Le Saint-Esprit parle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et pourquoi est-ce que cet homme a eu cette promesse? Parce qu'il a été un vainqueur. Il a laissé la froideur et l'apathie, l'indifférence de son cœur s'en aller, être remplacé parce qu'il s'est repenti par un amour brûlant pour le Seigneur. Quand même, il était sur une croix, il était en train de mourir, il était en train de souffrir, mais il a pris le temps de dire au Seigneur, souviens-toi de moi. Est-ce que ça, c'est pas aussi un amour brûlant? Vous savez, on veut des choses extraordinaires, et on prie pour ça, merci Seigneur, mais les plus grandes choses, les choses les plus extraordinaires, mais c'est celle qu'on vient de partager. Une femme qui pleure aux pieds du Seigneur et qui oint ses pieds. Un homme qui sur la croix a dit « Seigneur, souviens-toi de moi ». Ça, c'est des amours brûlants que le Seigneur désire dans nos vies. Voulons-nous être des vainqueurs? Voulons-nous aller dans le paradis? Celui qui vaincra. Nous sommes devant la possibilité ce matin d'être des vainqueurs pour le nom de notre Seigneur. Éternel, merci pour ta parole. Merci pour ce que l'Esprit dit aux églises. Merci pour ce que l'Esprit dit à ton église ce matin, à Auch. Seigneur, nous voulons avoir cette oreille exercée. Cette oreille qui est attentive à ce que tu dis. Tu connais, Seigneur, les circonstances de nos vies. Merci parce que ta parole est remplie de conseils, de promesses. Et nous ne voulons pas être indifférents à ta parole. Nous ne voulons pas tomber dans la froideur d'un amour qui n'en est plus un. Mais nous voulons, Seigneur, que ce matin encore, tu puisses, Seigneur, souffler en nous par le Saint-Esprit. Si quelqu'un était tombé dans un amour froid, Seigneur, que tu puisses ranimer la flamme. Que tu puisses embraser comme au premier jour, Seigneur éternel. Oh, quel amour peut se comparer au tien? Et à combien, Seigneur, nous pouvons répondre à ton amour? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour égaler ce que tu as fait toi? C'est impossible. Mais nous voulons faire de notre mieux jour après jour. Et ne pas laisser l'adversaire éteindre ce qu'il y a au fond de notre cœur. Oh, ce matin, que ton esprit agisse en nous, Seigneur. Et nous donne cet élan. que nous soyons cette Éphèse qui a cet élan, ce désir vers toi. Tes désirs se portent déjà vers nous, mais que nos désirs se portent vers toi, Seigneur. Que nous soyons de ceux qui agissent en conséquence. Bénis, Seigneur, chacun. Bénis, toi qui connais nos noms, toi qui connais nos vies. Parle, grave dans les cœurs ce que tu veux graver, Seigneur, et que ton nom soit glorifié dans cette matinée encore. Amen.